OK, alors bonjour à tous. Alors on va demander au Seigneur qui dispose de nos cœurs pour écouter ce qu'on a à entendre ce matin. Oui, notre Dieu et Père, on est toujours heureux de pouvoir être attentif à ta parole. Je te prie, ô Dieu, de disposer de chacun de nos cœurs afin qu'on puisse recevoir tes enseignements, qu'on puisse les mettre en pratique et que tu en retires tout l'honneur et toute la gloire. Et c'est au nom de ton bien-aimé Fils que nous te le demandons. Amen. OK, alors ce matin, comme on l'a dit mercredi dernier, c'est le titre du message, c'est « Connaître Dieu ». S'il y a un thème dans la vie chrétienne qui mérite d'être approfondi, c'est celui-là. Puis avant d'aller plus loin, à la fin du message, là, s'il y en a qui voudraient approfondir peut-être plus leur connaissance sur Dieu, il y a un excellent livre qui s'intitule comme ça, « Connaître Dieu » de James Packer. Si vous en voulez un exemplaire, juste à le demander à M. Suzanne, puis c'est qu'elle va, commander ça en même temps que mes calendriers. Mais vous savez, lire des bons livres chrétiens, ça nous aide justement à mieux approfondir notre connaissance qu'on est censé d'avoir sur Dieu. OK? Alors, ceci étant dit, si je vous dis, les assassins ne furent jamais retrouvés, ou les voleurs ne furent jamais arrêtés. Avez-vous déjà entendu ça, c'est aux nouvelles, des fois, c'est oui. Que de temps en temps?
Oui.
Puis, quel effet que ça vous donne, ça, vous autres, quand vous entendez des affaires de même?
Ben, c'est insultant. On dit qu'un jour, il y a quelqu'un qui va s'en occuper.
Bon, alors, pour certains, ça peut être insultant, dans le sens qu'il y a des coupables qui sont encore libres, comme l'air. Pour d'autres, ça va les enrager. Pour d'autres, ça va les troubler, ça va les perturber. Les assassins n'ont pas été retrouvés. Bon, tournez avec moi, si vous voulez, dans le livre de Job, au chapitre 24. Job, chapitre 24. On va commencer à lire au verset 2, de 2 à 14. Job 24, verset 2, on lit, « On déplace les bornes. » On vole des troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âme de l'orphelin. On prend pour gage le bœuf de la veuve. On repousse du chemin les indigents. On force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici, comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs. Ils grappillent dans la vigne de l'impie. Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes et ils embrassent les rochers comme unique refuge. On arrache l'orphelin à la mamelle. On prend des gages sur le pauvre. Ils vont tout nus, sans vêtements. Ils sont affamés et ils portent les gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile, ils foulent le pressoir et ils ont soif. Dans les villes s'exaltent les soupirs des mourants, l'âme des blessés jette des cris, et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. D'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. Alors, Job avait remarqué le succès des méchants. Ils prospèrent malgré leur péché. Puis, le chapitre 24 de Job, ça nous dresse une liste de péchés commis dans le monde du temps de Job. Il y avait toutes sortes d'affaires, de la domination qui était exercée envers les veuves, les orphelins et les pauvres. Il y avait des meurtres en passant par du vol, il y avait de l'adultère. Ça, c'était dans le temps de Job. Et, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on continue toujours de répéter les mêmes choses aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Peut-être les techniques ou les façons de s'y prendre. Vous êtes tous au courant qu'aujourd'hui, chez nous, là, c'est terrible, il y a un paquet de numéros de téléphone qui sont affichés, des numéros qu'on ne connaît pas. Et je vous le dis, si vous appelez chez nous et que vous avez changé le numéro de téléphone, dites-nous-le avant, parce que je ne réponds plus, moi. Chaque fois qu'on répond, c'est des arnaques ou des affaires, là. Puis il y en a même qui... Il y a des gens aujourd'hui assez futés qui vont essayer de voler ou de se faire passer pour un autre pour extirper de l'argent à des aînés, à des personnes âgées. Il y en a qui ont déjà même connu ça. Alors, les techniques aujourd'hui ont changé, mais le cœur humain, lui, n'a absolument pas changé. Il est demeuré en tout point identique au temps de Job. Et ce qui semble curieux, c'est que Dieu semble ne pas vouloir bouger pour mettre un terme à ça. Puis c'est ça qu'on lit dans Job au verset 12. Et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Ça regarde à ça. On dirait que c'est comme ça. Mais lorsqu'on apprend à connaître Dieu, on réalise que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas que Dieu ne prend pas garde à ça. Alors, les assassins ne furent jamais retrouvés, les voleurs ne furent jamais arrêtés. Ça peut être frustrant d'entendre ça. Mais avant d'être scandalisé trop vite, j'aimerais qu'on prenne juste une petite pause pour réfléchir puis pour penser. Parce que si Dieu agirait à notre égard à la même vitesse que nous, on agit, lorsque les autres sont fautifs, on se fera taper ses doigts toute la gang. On est toujours plus rough vis-à-vis des autres que Dieu l'est vis-à-vis nous-mêmes. Alors, il faut être prudent dans ça. Il ne faut pas aller trop vite. C'est vrai que c'est incompréhensible, c'est choquant de voir qu'il y en a qui font le mal, puis ça passe. Mais on va se fier à Dieu pour ce qui est du résultat puis du jugement final. Si vous voulez tourner avec moi dans le livre de Habacuc. Habacuc, c'est un autre prophète. Habacuc, chapitre 1, versets 1 à 4. On lit « Oracle révélé à Habacuc, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Alors, la prophétie qui avait été révélée à Habacuc avait été écrite dans un temps où Juda vivait un déclin moral. Et curieusement, ils ont vécu un déclin moral après avoir passé par une période de grand réveil spirituel sous le roi Josias en Juda, qui avait été un bon roi. Alors, mais là, dans le temps où ce que Habacuc a écrit la prophétie, il y avait de la violence, des querelles, des divisions. Le système judiciaire était paralysé. La domination des justes par les méchants, ça prenait place tout le temps, parce que c'est comme on lit, le méchant, puis c'est ça qu'Habacuc, il ne me comprend pas, le méchant triomphe du juste. Alors, la corruption, la justice, ça faisait partie de la vie de tous les jours. Et lorsqu'on réfléchit à ça, la prophétie, elle a été écrite à environ 6 siècles avant Jésus-Christ. Ça veut dire à peu près 2600 ans de notre époque d'aujourd'hui. Alors, ça fait 2600 ans que ça s'est passé, mais on voit encore des choses semblables se produire de nos jours en 2025. 2600 ans après. C'est-tu parce qu'on n'a pas compris? Jérémie nous donne la réponse à ça dans Jérémie 17, 9. Il dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » C'est pour ça que ça va bien dans le monde. C'est parce que le cœur des êtres humains est tortueux et méchant. Charles Spurgeon, lui, il disait, « Comme le sel imprègne chaque goutte d'eau de l'océan, le péché affecte chaque atome de notre nature. » Et on est tous pareils. On est tous corrompus. Là, vous dites, « Hey, les chrétiens sont de même aussi. Les chrétiens ne sont plus censés être comme ça. » Mais lorsqu'on s'examine comme faux, il y a toujours des coches dans notre vie, dans notre personnalité, dans notre caractère qui peut être amélioré. Êtes-vous d'accord avec moi? Bon. Mais ce qui troublait à Habacuc de son temps, c'était pas tant les actions des hommes, mais plutôt l'inaction de Dieu. C'est ça qui le fatiguait, lui. Il dit, « Jusqu'à quand, Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? » Ça, ça troublait Habacuc. Alors ici, on a un cas. Habacuc qui ne comprend pas. Job, de son côté, ne comprenait pas plus. Il y a le prophète Jérémie aussi qui a goûté à la même expérience quand la condition spirituelle de Juda est allée en se détériorant. Il dit dans Jérémie 12, verset 1, « Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? » Autrement dit, « Pourquoi les infidèles croissent et portent du fruit? » Pourquoi? Quand on ne comprend pas, c'est une question qu'on pose. Pourquoi? On veut, c'est une interrogation sur la raison des choses. Quand il y a quelque chose qui ne semble pas logique, on se dit, pourquoi ça marche de même? Pourquoi c'est comme ça? C'est ce qu'on a vu tantôt, Jérémie, il nous a donné une réponse qu'on ne doit jamais oublier parce que le cœur humain est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Là, on parle toujours des inconvertis, et même les convertis se doivent de se laisser transformer par Dieu, parce que comme on entend souvent, on est en construction ici pendant le temps qu'on est sur la terre. Il y a des choses qui doivent être changées, il y a des choses qui doivent être améliorées, et le seul qui peut faire ça dans nos vies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À condition que le Seigneur Jésus-Christ vive en nous, par exemple. OK. Salomon, même lui, qui a été reconnu comme étant l'homme le plus sage à avoir passé sur la terre, il se questionnait sur ce que, selon lui, n'avait pas de sens. Dans Ecclésias, chapitre 8, verset 14, Salomon, il dit, « Il est une vanité. » Une vanité, ça, c'est une futilité ou une inutilité. Alors, pour Salomon, il dit, il y a une futilité, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis là que c'est encore une vanité. Alors, Salomon, l'homme qui était sage, intelligent, ne comprenait pas ça. Habituellement, Dieu récompense l'obéissance, puis il punit la désobéissance. Si ça se passe pas de même, bien, Salomon considérait ça comme étant embarrassant ou même décourageant. Psaume 73. Si vous voulez tourner là. Un autre. qui a été troublé. Psaume 73, c'est que vous savez, c'est qui l'a écrit? Quand on dit le psaume 73, on dit le psaume d'Asaph. Asaph, lui, dans le psaume 73, il a presque laissé étouffer sa foi en Dieu, en voyant, comme il dit, le bonheur des méchants. Puis regardez ce qu'il dit. On va lire à partir du verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les surmonte jusqu'à leur mort. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment, et il dit, « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? » Et en plus, ils sont arrogants, dans le sens de, « Dieu n'est pas au courant d'absolument rien. Alors, on peut faire ce qu'on veut. » Ils vivent comme si Dieu ignorait ce qui se passe. Alors, on vient de voir cinq hommes, Job, Habacuc, Jérémie, Salomon et Asaph, qui sont dans la confusion puis dans le doute quand ils sont témoins de choses qu'ils ne comprennent pas. Ça, c'était eux autres. Là. Maintenant, ça vous est-il déjà arrivé à vous autres de vous questionner sur des affaires que vous ne comprenez pas? Dans la vie ou dans votre vie chrétienne. Pourtant, Seigneur, je suis fidèle, je lis la Bible, je prie, je fais des choses pour toi, puis tabarnouche que ça va mal. Il y en a qui sont malades dans ma famille, il y en a là, qui ont dérapé, il y a des amis proches qui ont abandonné le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que ça voudrait dire que Dieu, finalement, sera responsable de la méchanceté humaine? Parce que je vois que ça va tout croche, là. Pourquoi, d'abord, Dieu tolère puis endure, comme on lit dans Ésaïe 5:20, ceux qui appellent le mal bien, le bien mal, ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, ceux qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume? Comment ça, t'endures ça, oh Dieu? Puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis plusieurs années maintenant, on est en train de constater que le péché dans le monde est en train de brouiller même l'intellect des gens, l'intelligence des gens. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est rendu qu'il y a des hommes qui se posent la question à savoir s'ils ne sont pas des femmes. Et vice-versa. Il y a des femmes qui se posent la question à savoir s'ils ne sont pas des hommes. Trouvez-vous que ça fait du sens? Moi, ce n'est pas compliqué. Là, je suis assez raide dans des affaires de même. La réponse à ça, c'est regarde-toi entre les deux genres. Tu vas savoir qui ce que t'es. Mais là, on est tellement rendu corrompu puis tordu qu'on se pose la question. Je suis un homme, mais est-ce que je suis vraiment un homme? Et dans les écoles aujourd'hui, on pousse des affaires-là. Comment est-ce que tu te sens? On fait des toilettes mixtes pour pas que les gens soient trop perdus, puis tout, alors qu'ils sont complètement perdus. Tournez avec moi dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 18. Là, c'est qu'on va lire, c'est qu'une bonne partie, là, mais ça vaut la peine de le lire. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre chef, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Alors, il est où le problème? Le problème, on le voit au verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Pourtant, quand on lit au verset 19, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, c'est-à-dire évident. Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident. Dieu ne cache rien aux êtres humains. Dans la nature, dans la création, Dieu donne la preuve de son existence. Dieu a également placé dans le caractère de l'homme une raison ou encore une intelligence, ce que les animaux n'ont pas. Eux autres, c'est plus un instinct qu'ils ont. Puis, Dieu y a mis aussi une loi morale et une conscience qui nous parle et qui nous avertit. Êtes-vous conscient que vous avez une conscience? L'avez-vous déjà entendu? Votre conscience vous parle-t-elle de temps en temps? C'est sûr que notre conscience nous parle parce que Dieu a mis cela pour ça, pour nous avertir. Vous vous souvenez dans Jean 8, quand il y a des hommes qui ont amené devant Jésus une femme qui avait été surprise en délit d'adultère. Leur argument à ces hommes-là, c'était « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Ils voulaient pincer le Seigneur, là. C'est qu'ils voulaient le poigner. Alors, la réponse du Seigneur, il a dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et au verset 9, dans Jean 8, on lit « Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. » La conscience venait de parler. Romains 1, 20 nous dit qu'ils sont donc inexcusables. Ils sont inexcusables de ne pas s'être préoccupés de connaître Dieu. Parce que s'il y a une chose dans la vie d'un être humain qui est de la plus haute importance, c'est de connaître Dieu. Si tu ne le connais pas, ce que les Écritures nous disent, c'est que tu vas passer l'éternité loin de lui. Tu ne l'as pas connu, puis bien souvent, c'est parce que tu n'as jamais voulu le connaître. Alors, tu récoltes ce que tu sèmes. Alors, aucun intérêt vis-à-vis lui. Est-ce qu'il y a des conséquences à ça, de ne pas vouloir connaître Dieu? La deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, il y a un verset qui dit ceci. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu use de patience envers chacun des êtres humains. Le Seigneur supporte d'innombrables blasphèmes contre son nom. En 2025, il endure la rébellion, il endure des assassinats et la violation continuelle de sa loi, mais Dieu attend patiemment jusqu'au jour où le point de non-retour va être atteint. C'est quoi ça, le point de non-retour? C'est que l'être humain, après avoir été averti par sa conscience, par d'autres chrétiens, parce qu'il a lu les Écritures, ou peu importe, mais après avoir eu tout ce qu'il avait besoin de connaître, s'il continue de refuser, il va venir un temps qu'il va atteindre un point de non-retour. Et ça, évidemment, il y a juste Dieu qui sait quand est-ce que cette étape-là a été franchie. Mais lorsque l'étape a été franchie, il n'y a plus rien à faire avec ce gars-là ou cette femme-là. Nous, on ne le sait pas. C'est la raison pour laquelle il faut continuer de persévérer, de prier, parce qu'on ne le sait pas. Et c'est aussi bien de même, par exemple, parce qu'on lâchera vite. Alors, Dieu attend patiemment jusqu'à ce que ce point-là ait été atteint. Alors, lorsque ce point-là a été atteint, comme on le lit dans Romains 1, à trois endroits différents, on lit que au verset 24, Romains 1, verset 24, 26 et 28, on lit que Dieu les a livrés. Autrement dit, Dieu les livre à eux-mêmes. C'est comme ce que je vous expliquais déjà avant, là. Dieu tenait dans sa main, et lorsque tu ne veux plus rien savoir de lui, après des multiples tentatives de toutes sortes, mais Dieu enlève sa main. Et il te tenait, il ne te tiendra plus. Et s'il ne nous tient plus, qu'est-ce qui arrive? On va tomber. On va s'en aller. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pharaon en Égypte. Après avoir subi les 10 plaies dans son pays, Exode chapitre 7, aller jusqu'à 12, nous révèle qu'à chaque fois, le cœur de Pharaon s'endurcissait. Le cœur de Pharaon s'endurcissait et il s'est endurci jusqu'à un point de non-retour. Et on sait ce qui est arrivé avec Pharaon. Et son armée, ils ont toutes péri. Ils ont toutes péri noyés. Mais Dieu le savait. Pas cause, hein? Il y a eu 10 tentatives pour revenir au bon sens. Moïse qui faisait des miracles. Abracadabran, je dirais, là. Puis Pharaon s'endurcissait. Alors, quand les hommes abandonnent Dieu consciemment, bien, Dieu les abandonne aussi parce que lui seul sait qu'il n'y a plus rien à espérer d'eux. Dans le psaume 81, verset 12, on lit ceci. « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Ça, il n'y a rien de plus dramatique que ça. Lorsque Dieu nous laisse aller. Tu ne veux pas comprendre? Après les multiples avertissements que tu as eus, bon, c'est correct. Dieu n'a jamais cassé le bras à personne. Et il ne le cassera pas non plus. Alors, face à tout ce qui est incompréhensible, il y a beaucoup de pourquoi et d'interrogations qui peuvent popper dans notre esprit, dû au manque de connaissances qu'on a concernant Dieu. Souvent, on ne comprend pas parce qu'on ne cerne pas la personne de Dieu. Je suis d'accord avec vous que le croyant n'a pas été appelé à tout comprendre concernant les plans que de Dieu. Il y a un autre passage dans Romains, chapitre 11, verset que vous connaissez sûrement. Romains, chapitre 11, verset 33, on lit « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Le pasteur et écrivain Arthur W. Pink a écrit « Dieu est omniscient et il connaît tout. Tout ce qui est possible, tout ce qui est réel, tous les événements, toutes les créatures du passé, du présent et du futur. » Puis les versets 34 à 25, ils nous dressent une série de mes questions. Qui a connu? Qui a été? Qui lui a donné? Alors, la signification de ces questions-là, c'est que personne n'a pleinement compris l'Esprit du Seigneur. C'est évident. Si on pouvait comprendre Dieu dans sa totalité, ben on serait quasiment comme lui. On est limité dans notre compréhension. Mais même si on ne comprend pas tous les événements qui nous entourent, même si on n'a pas des idées tout le temps claires sur ça, notre responsabilité à nous, c'est de demeurer toujours attaché au Seigneur. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas ce qui arrive. Jean 6, tournez là, ça va à peine aussi. Jean chapitre 6. Après que Jésus a eu terminé son discours sur le pain de vie, Jésus a dit à ses disciples au verset 53, Jean 6, 53. Jean 6, 53, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Je suis rendu où, là? OK. « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Pensez-vous que ça pourrait être facile à me saisir, ça, ce message-là? Alors, les disciples, lorsqu'ils ont entendu ça, au verset 60, c'est marqué « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous croyez, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Verset 66, il y en a qui disent que c'est probablement le verset le plus triste de la Bible. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Alors, il y en a qui ont abandonné la foi après avoir entendu quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Après avoir vu des affaires qu'ils ne comprenaient pas. Alors, Jésus, il demande même à ses disciples, vous autres aussi, vous allez, est-ce que vous voulez vous en aller? Mais ceux qui ont abandonné, ce n'est pas Jésus qui voulait. C'était plutôt les avantages qu'ils pouvaient en retirer d'être avec Jésus. Parce que Jésus guérissait. Jésus nourrissait. Jésus enseignait. Jésus consolait. Mais pour eux, ce qu'ils voulaient, c'est « fais ce qu'on veut, puis on va continuer à te suivre. » Ou « continue de nous bénir, puis on va t'aimer. » Alors, la question fondamentale qu'on devrait tous se poser, chacun de nous personnellement, c'est « pour quelle raison est-ce que je suis le Seigneur? Pour quelle raison est-ce que je veux le suivre? Parce que c'est avantageux. Pour les bénéfices que je peux en retirer, ou parce que, comme Pierre a dit, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Où aller pour connaître la vérité, pour savoir que j'ai besoin de repentance à cause de mon péché? Que le Seigneur est disposé à m'accueillir pour me sauver. Où qu'on peut bien aller, sinon à toi? Mais ça vaut la peine de me questionner. Pour quelle raison que je suis le Seigneur Jésus-Christ? Parce que j'aime ça aller à l'église à chaque dimanche. J'aime ça entendre que tu as des messages. Ça m'encourage, c'est le fun. Pour quelle véritable raison suivons-nous le Seigneur Jésus? Et je fais une pause ici, parce que c'est la question la plus importante que vous pourrez jamais vous poser. Dans l'Ancien Testament, on a un exemple remarquable de droiture et de sagesse. Quelqu'un qui, par sa connaissance de Dieu, avait de lui une très haute opinion. Avez-vous une petite idée de qui ça peut être? Le prophète Daniel. Lui et ses trois amis sont devenus aussi savants qu'on pouvait l'être à Babylone, puis Dieu les a rendus capables de garder leurs principes sans faire aucun compromis, même quand leur fidélité les a amenés face à la mort, ou qui étaient devant des situations qu'ils ne comprenaient pas, comme bien d'autres aussi. Puis la grande vérité que Daniel a pu enseigner dans tout son entourage et aux quatre rois qui ont été vivants pendant le temps que lui y était là, c'est-à-dire Nébuchadnezzar, Belshazzar, Darius le Mède et Cyrus le Grand, cette vérité-là était celle-ci. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il lui plaît. Et dans le livre de Daniel, à quatre endroits, on voit ce même passage-là qui revient. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il lui plaît. Et chaque fois que le prophète Daniel faisait une prière, c'était toujours appuyé sur cette vérité-là. Le Très-Haut règne sur le domaine des hommes et il le donne à qui il lui plaît. Dieu connaît à l'avance toute chose. C'est lui qui va avoir le dernier mot dans l'histoire du monde et dans la vie de chacun de nous. À la fin du millénium, juste avant que Dieu établisse l'état éternel, avec un nouveau ciel, avec des nouveaux cieux puis une nouvelle terre, on voit qu'il va y avoir un trône blanc, le grand trône blanc qui est un trône de jugement. Jean nous dit dans Apocalypse 20, 12, « Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. » Ici, on a une comparution au sens judiciaire, dans le sens que tous ceux qui sont là, ils sont là en tant que prisonniers coupables et condamnés par la justice divine. Le grand trône blanc dans les Écritures, c'est de ça que c'est. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les pensées, les paroles, les actions vont être comparées à la norme divine. Et je vous le dis tout de suite, ça ne pèsera pas pesant. Ça ne pèsera pas lourd. Parce qu'on lit dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Lorsque tu es rendu au grand trône blanc, tu as beau t'imaginer que je vais m'arranger avec lui, moi. Avez-vous déjà entendu ça? Oh, ça, je m'arrangerai bien avec lui. Pauvre petit innocent, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, innocent. Tu n'auras plus rien à dire. Tu vas être là pour le jugement. Ta bouche va être... Tu n'as rien à dire. Tu as juste à accepter le fait que tu es condamné parce que tu as désobéi. « Oh, je m'arrangerai bien avec. » Pauvre être humain. Mais on doit comprendre, par exemple, dans Matthieu 11, 22, qu'il va y avoir différents degrés de punition en enfer. Sur quoi je me base pour dire ça? Jésus avait déjà dit dans Matthieu 11, 22, « C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement. » Au jour du jugement. Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Donc, il y en a qui vont souffrir plus que d'autres. À travers l'histoire de l'humanité, il y a plusieurs chrétiens et chrétiennes discrètes et aimant Dieu qui ont subi une mort atroce et donnée par des gens cruels et corrompus. C'est arrivé, ça. Et ça arrive encore. Il y a plusieurs événements, plusieurs circonstances qui sont déroulées puis qui ont soulevé la colère puis l'incompréhension de plusieurs croyants. Mais croyez-vous que le Seigneur n'a pas été témoin de tout ça? L'assassin puis le voleur qui s'en tire à bon compte, la Bible nous dit que s'il n'y a pas de repentance, 2 Corinthiens 11, 15, leur fin sera selon leurs œuvres. Mais dans la grâce et la bonté de Dieu, je vais vous raconter une chose vite, là. Au procès de Nuremberg, vous savez ce que c'est, ce procès-là? Il y a eu 21 responsables, hauts responsables du régime nazi qui ont été détenus. Ceux-là qui avaient dirigé tous les camps de concentration, puis tout ça. Il y avait 21 hauts responsables qui ont été détenus. 11 ont été condamné à mort. Un chrétien qui s'appelle Henry Jericho a décidé de rendre visite plusieurs fois par jour à quelques-uns d'entre eux. C'était chef de la Gestapo, là. Certains l'ont assuré qu'ils avaient mis leur foi en Christ et qu'ils étaient sûrs d'avoir la vie éternelle. Malgré le vie abominable qu'ils ont eue, la méchanceté de leur cœur. Si vous me demandez d'expliquer ça, là, la seule raison que je peux vous dire, c'est ça, c'est le miracle de la conversion et le miracle de la grâce divine. Alors, l'assassin et le voleur qui se repentent, ils peuvent avoir la même possibilité d'être sauvés. Ça, c'est la bonté. Tantôt, on va prendre le repas du Seigneur. C'est à des choses de même qu'il faut se souvenir. Je méritais la même place qu'eux autres. et le Seigneur m'en a arraché parce qu'il m'aime, parce qu'il m'a fait grâce. Si on vient à que Daniel, puis on va terminer avec ça. Daniel, dans ses prières, Daniel 2, verset 20, on lit, « Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. » Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on voit qu'on a une conception? Est-ce que c'est une conception comme ça qu'on a que de Dieu? Pas une conception qui va dire, « Ah, finalement, j'ai une idée plus ou moins juste sur sa personne. » Connaître Dieu, ça devrait être une relation, être en contact, en liaison étroite avec lui. Vous savez, qu'on le veuille ou non, nos prières dévoilent notre niveau de connaissance qu'on a du Seigneur. Ce qui sort de notre bouche, c'est souvent ce qu'on connaît de lui. En terminant, le prophète Michée avait fait connaître aux Judéens ce que l'Éternel attendait d'eux. Michée 6:8. Il y en a qui connaissent un par cœur. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Prions. Oui, notre Dieu et Père, on est tellement heureux de ce que tu nous as laissé ta parole pour nous convaincre, pour nous diriger, pour nous faire comprendre des choses qui sont parfois difficiles à mécomprendre. Et même les choses qu'on ne comprend pas, on peut se reposer humblement en toi, sachant que tu fais toujours ce qui est le mieux pour nous. Et c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, qu'on peut élever ton nom ce matin. Amen. Amen.